Dieu soit béni, bonjour à tous et à toutes. Donc dans l'action de grâce de savoir un d'entre nous qui a été plongé dans l'eau baptismale, on va dire. Hein. Donc voilà, et puis toutes les grâces qui ont été faites en ce temps du carême et qu'il nous faut fructifier pendant le temps pascal, nous dit l'oraison de l'office. On va se mettre sous la motion de l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui instruisez le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bon et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, doux et humble de cœur. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est nécessaire de réexpliquer à quoi consiste la garde d'honneur. Est-ce qu'il est nécessaire de recamper un petit peu le charisme? Mais je vous dirais, même si ça l'était, c'était nécessaire ou pas nécessaire, je voudrais apporter une petite lumière. Alors, il s'avère que la personne en question n'est pas là, mais comme je sais que c'est écouté, et puis peut-être que le Seigneur permettra que ça serve à d'autres, je me sers toujours un petit peu, on va dire, des remarques des uns et des autres dans leurs difficultés qu'ils peuvent confier à la fin de la formation, par exemple, pour m'en servir, pour essayer de vous rejoindre, pour vous aider. Et comme je sais par expérience que, on va dire, que c'est pas parce que vous trouvez tout sur Internet que tout est vérité, et je dirais même qu'il faut s'en méfier, rien ne vaut un bon bouquin, mais pas écrit par n'importe qui. Donc là, je voudrais donner deux petits conseils spirituels avant de commencer, de continuer notre chemin sur le courant spirituel qui est la réparation. Voilà, on peut rencontrer des difficultés quand on fait son œuvre de présence. Hein, on s'imagine que c'est facile, simple, de se mettre en union avec Jésus présent au tabernacle. Alors, on peut rencontrer des difficultés de l'ordre, je ne sens pas que je suis unie. Je pensais que mon œuvre de présence allait régler justement mes vagues à l'âme, on va dire, cette désolation qu'on peut sentir dans la prière et qui fait qu'aujourd'hui on met beaucoup l'accent sur le sensible. Alors vous sentez pas le bon Dieu, en fait compte, ça sert à rien de faire l'heure de présence, ça sert à rien de prier, ça sert à rien de petit à petit, en décennie après décennie, on va dire, la vie spirituelle dégringole parce que le vocabulaire n'est plus employé et on essaie de vous faire fonctionner de la manière dont fonctionne Google, qui tourne sur lui-même. et je voulais citer deux passages extraordinaires. Donc c'est un abbé bénédictin, Don Chapman, qui est un abbé qui est anglican, enfin d'abord converti de l'anglicanisme au catholicisme. Il est du 19e siècle, il va se retrouver bénédictin et abbé de Downside et il sera un grand ami, en tout cas ils se connaîtront et je pense que ça vient de là, de Don Marion qui est lui-même un grand abbé de Maritsou, l'abbaye de Maritsou en Belgique. Et du coup, Don Marion, son saint était Saint François de Sales. Et il s'est beaucoup formé, Don Marion, avec Saint François de Sales et Jean-Pierre de Caussade, donc le traité du Saint Abandon. Des livres qui sont aujourd'hui remarquables, qui coûtent, entre nous, ça coûte une petite fortune sur Internet hein, pour l'acheter en occasion. Ça se trouve quasi même plus. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'on a envie, quoi. C'est ça qui est dommage. Et Marmion va passer à Don Chapman son amour de Saint François de Sales et de Jean-Pierre de Caussade. Ce qui fait que chez Don Chapman, vous avez, l'esprit salésien, ce que nous, on essaie de vivre à la visitation. Donc c'est, pour nous et pour vous, parce que vous faites partie de la famille, on est de plein pied, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on est en terrain... on se sent à l'aise, quoi. On se sent chez nous. Et voilà ce qu'il y a, avec beaucoup de précision, parce que c'est un bénédictin. Ce que nous devons acquérir, c'est l'habitude de mesurer toute chose à la volonté de Dieu. Et nous devrions toujours être en paix si nous avons vraiment acquis cela. Autant que je puisse en juger par votre lettre, il n'y a rien qui aille, comme je l'ai dit, donc c'est essentiellement des lettres de direction qu'il a avec des religieuses ou des moines aussi, mais là c'est une religieuse. Donc là il répond sur une lettre. Et nous avons vraiment acquis, autant que je puisse en juger par votre lettre, il n'y a rien qui aille de travers. Vous vous sentez parfois, je suppose, comme une montre au bout de son ressort. Vous avez besoin d'être remonté. Ça nous arrive. Vous essayez, je le sais, de ne désirer que la volonté de Dieu. Mais peut-être ne comprenez-vous pas toujours qu'il vous laisse tel que vous êtes pour votre bien. Et pourtant, vous le savez, en fait, vous savez déjà tout ce que je vais pouvoir vous dire. Seulement, il est parfois utile d'en être assuré par quelqu'un d'autre. Lorsqu'on est dans une espèce de désolation, le mieux est de désirer y être et d'y rester. Dites-moi qui vous dit ça aujourd'hui. Voilà. Téléphone à ta meilleure amie et vide ton sac. Voilà, en gros, c'est ça qu'on vous dit. Fais-toi du bien. Hein? C'est le seul moyen de s'unir à Dieu. C'est le seul moyen de s'unir à Dieu. Si vous connaissez donc la montée du Carmel, donc il est aussi comme en tant que bénédictin et puis grand spirituel Saint Jean de la Croix, vous connaissez la doctrine selon laquelle le seul moyen d'union est, accrochez-vous, le dépouillement. Le dépouillement de soi. Les illuminations et les inspirations sont une aide et un bonheur, mais ne sont pas l'union. L'union est le don, et c'est ça qui m'intéresse, imperceptible de soi à Dieu. On est quand même bien loin de « je sens ». Justement, je sens rien. La seule chose qui en soit perceptible est l'abandon de tout le reste. De mes préoccupations, par exemple. De mes soucis, de mon ménage que je voudrais faire. Et voilà. Lorsque nous ne sommes pas consolés en Dieu et que nous voudrions l'être par-dessus tout, nous sommes sans doute alors plus unis à lui qu'à aucun autre moment. La doctrine de Saint Jean de la Croix est austère. Saint François de Sales enseigne exactement la même, mais d'une manière plus plaisante, donc c'est intéressant, et ainsi font tous les saints. J'éclaire ce passage avec un autre de du jour de Don Chapman. C'est pourquoi la préoccupation principale lorsqu'on prie, c'est de se garder de s'inquiéter au sujet de la manière dont l'imagination court ici ou là. Tant mieux après des années de purification que vous ayez, on va dire, plus rien dans la tête si ce n'est que Jésus. Mais on le sait très bien, enfin, par expérience, c'est des années, il faut partir sur 15 ans de purification pour avoir uniquement Dieu et capable de rentrer dans cette vie contemplative. Mais si on a donc notre imagination qu'on n'arrive pas à canaliser dans la prière ou pendant notre œuvre de présence, ne pas s'en inquiéter. Le meilleur moyen de la tenir tranquille est de répéter certains mots, textes ou oraisons jaculatoires, comme nous essayons de ne pas écouter avec nos oreilles, comme nous fermons les yeux pour éviter toute distraction. Ainsi devrions-nous essayer de fixer notre imagination en répétant des mots. Mais la vraie prière est l'acte de la volonté. Donc, ce n'est pas de l'ordre « je sens que je suis unie à Dieu, donc je suis unie à Dieu ». Non, je suis la plupart du temps unie à mon sentiment, c'est-à-dire à moi-même. Mais je ne suis pas unie à Dieu quand je sens. Vous ne pouvez ressentir, toujours dans Chapman, cet acte de la volonté, mais vous pouvez le connaître. Ce que vous ressentez réside dans la partie inférieure de l'âme, l'imagination et l'émotion. Sa fondateur dans la vie spirituelle, enfin tous les grands spirituels, découpe l'âme en deux parties, la partie inférieure et la partie supérieure, où on entend la fine pointe, c'est la partie supérieure, celle qui fonctionne avec la volonté. Et la partie inférieure, la partie basse aussi on dit, eh bien c'est celle qui est mue par les émotions, les passions, etc. Et n'a pas d'importance. C'est pas ça, c'est pas elle qu'on doit écouter dans la prière. L'activité de la partie supérieure de l'âme, vous ne la sentez pas, mais vous la connaissez. Vous pouvez vous sentir distraite, mélancolique, misérable, ou vous pouvez vous sentir rempli d'amour et de désir, mais tout cela est sans importance. Là, c'est intéressant de revisiter comment on vit nos temps de prière, nos temps d'heures de présence, et comment on se décourage. Parce que c'est tous les jours qu'il faut remettre son heure de présence. Hein. Le rendez-vous, il est de tous les jours. Ce qui importe est l'acte de la volonté que vous connaissez, mais ne sentez pas. Qui accepte de Dieu tous ses sentiments et vous donne à lui pour être sienne et pour être et avoir seulement ce qu'il veut. Il faut que nous apprenions à vivre avec la partie la plus haute de notre âme et à ne prêter attention à rien d'autre. Pour vous montrer ce que je veux dire, j'attirerai votre attention sur ceci. Cette prière contemplative s'arrête net lorsque, par une imperfection volontaire, nous refusons ce que Dieu nous demande. Et, en somme, quand il n'y a pas justement la consolation, le sensible, souvent c'est à ce moment-là qu'on commence à discuter dans notre prière. Et puis après on est tout étonné que ce soit difficile de remettre le travail sur l'établi. En fait, on recherche pas Dieu, on recherche la satisfaction hein, dans la prière. On recherche son moi. Alors que c'est une miséricorde qu'il nous fait, Dieu, en nous mettant pas le sentiment de la prière, ou même le sentiment de sa présence, pour nous purifier du moi qui et prend toute la place dans la prière et veut sa satisfaction. Hein? Vous voyez comment il faut envisager notre heure de présence. Et voilà, et j'avais des échos de personnes qui avaient des difficultés dans l'heure de présence à tenir cette heure qui est des fois difficile parce que on peut être surchargé à ce moment-là. On a des fois tout fait pour que notre heure de présence se soit un peu, désencombrée au niveau des activités pour avoir une capacité intellectuelle de bien nous unir à Jésus. Et puis, il s'avère que la volonté de Dieu qui mène la providence, eh bien, fait que, justement, maintenant, c'est devenu une heure où j'ai pas la capacité de me recueillir. Est-ce que faut changer son heure de présence, moi j'entends ça, parce que je ne peux pas faire mon heure de présence. Si je tiens compte de ce que je viens de vous dire, est-ce que je dois donner mon aval pour une personne qui me dit est-ce que je ne peux pas changer mon heure parce qu'en fait, quand je suis incapable de me recueillir pour faire mon heure de présence? Normalement, non. Ben oui. Qu'est-ce que c'est que l'heure de présence? C'est poser un acte volontaire d'être uni à Jésus dans ce qu'on fait. Et ce qu'on va faire, c'est ce qu'il a prévu au programme, au menu. C'est 10 000 appels, 30 sollicitations. Et alors là, je n'ai pas du tout pu penser à lui, mais j'ai fait sa volonté. Donc, faire sa volonté, c'est d'être uni à Jésus. Est-ce que ça vous aide? Je suis sûre que plus personne ne va me demander à changer son air de présence. Et je taquine parce que je comprends qu'on puisse avoir envie ou en être tenté. Hein. Mais attention, notre confort dans la prière. Hein. Et je vous dis, hein, c'est une miséricorde parce qu'il ne peut pas nous purifier, c'est-à-dire diminuer notre moi, l'orgueil, notre volonté propre, notre jugement propre, etc. En somme, nous faire saint, nous rendre saint. S'il nous laissait nous sentir, tout reposer sur le sensible. Dans la vie spirituelle, dès que c'est sensible, il faut bien vous dire, c'est le Flandon Chapman, Saint Jean de la Croix, notre saint fondateur, on les appelle les commençants La maturité spirituelle, c'est quand on a une certaine maturité dans la vie spirituelle, on ne sent plus. Tout repose. C'est une sensibilité au niveau de l'âme, mais pas au niveau des sens. La première étape, c'est la purification des sens. Alors, vous voyez notre monde? Sentez, voilà, goûtez, regardez, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Wow. Quelle destruction pour la vie spirituelle. C'est juste un éveil. Hein, enfin. Mais voilà, donc, remesurer que je voudrais bien aller à la messe et puis en fait compte mon devoir d'État exige que je sois avec ma femme, mes enfants et puis... je sens que j'entends des fois ça, bah, depuis que je me suis mariée, bah, alors j'ai encore moins de vie spirituelle qu'avant. Non, non. À tes yeux, dure à ton orgueil, à ta satisfaction personnelle, hein, mais pas aux yeux de Dieu, parce que tu fais la volonté de Dieu. N'imaginez pas les sœurs, une heure et demie d'oraison, avec des extases du début jusqu'à la fin. Non. Le mérite d'une contemplative, c'est d'aller, quand la cloche sonne, s'embêter pour Jésus. C'est ça l'horizon, hein?
Et si on s'endort?
Comment?
C'est grave si on s'endort?
Non. Ah non? Dieu a voulu que vous endormiez.
Ça veut dire qu'il le permet.
Ouais, Dieu veut que vous endormiez. Il faut tout... Alors, par contre, quand vous ressortez de votre sommeil... Au début. Merci Seigneur. C'est pas si simple de dire merci Seigneur quand on a marre, je me suis endormie et puis c'est à chaque fois que je m'endors. Du coup, on sent un petit peu humilié, quoi. Parce qu'on voudrait quand même Jésus t'offrir une heure de présence, quoi. Et c'est peut-être ça qui est visé, quoi. Voilà. Tout est conduit par Dieu. Il passe par nos failles. Hein, pour nous faire la leçon et nous purifier, mais tout est conduit par Dieu. Donc quand vous arriverez à bénir le Seigneur parce qu'il vous a endormi, vous aurez fait un pas immense dans la vie spirituelle. Il ne faut pas croire, on ne s'aime pas trop. Notre moi orgueilleux nous veut, parce que ça c'est la maladie du siècle, hein, pervers narcissique, mais aussi le perfectionnisme qui marche avec. Il y a énormément de perfectionnisme chez nous, chez les uns et les autres. Pour l'amour de Jésus, on veut être comme ci, on veut être comme ça. Enfin, on a des clichés sur nos vies spirituelles. Hein. Quand j'arriverai à faire ci, quand j'arriverai à me laisser faire, c'est surtout ça l'objectif. C'est se laisser faire qui est important. C'est pour ça qu'il enlève le sucre. Alors voilà, comme toujours, j'ai été plus longue que prévu. Mais bon. Alors, pour ceux et celles qui nous reprennent en route, le train, eh bien, donc on avait commencé l'explication du courant spirituel qui est la réparation, et à travers la troisième apparition de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie. Et la dernière fois, j'avais un petit peu campé ce qu'on appelle la miséricorde avec la sainteté de justice et la sainteté d'amour de Sainte Marguerite Marie. Et aujourd'hui, ça va être, j'espère que le Saint-Esprit va vous, enfin, avec ce que je vous ai bien de vous dire, ça ne peut que de vous ouvrir le cœur bien large, parce que le propos va être un petit peu plus technique, plus théologique. Mais dans ma prière, il m'a semblé vraiment important de passer par ces deux termes qui sont mérite et satisfaction. Parce que, je vous explique pourquoi, aujourd'hui, le courant qui est la réparation, avec tout le courant, on va dire, tous les abus qu'il y a eu dans l'Église, pour lesquels je ne fais absolument pas fi, je suis très, enfin voilà, je sais très bien que sans parler de l'Église, dans les familles, hein, il n'y a pas que dans l'Église. En somme, la famille est aussi une petite Église domestique, donc voilà. Le péché depuis Adam et Ève existe, donc faut qu'on s'étonne de rien. Par contre, c'est pas pour autant que c'est admissible, attention. Mais on a, à mon avis, on peut en tout cas tomber dans le piège de « je répare le mal en somme, par une somme d'argent, je ne suis pas contre, hein. Enfin, après ça ne me regarde pas, mais on peut par l'argent vouloir réparer vraiment le mal qui a été commis. C'est certes une réparation, c'est-à-dire qu'on fait justice, hein. Par contre, le courant spirituel qui est la réparation ne pourra jamais, on va le voir, c'est pour ça que je veux voir le mérite et la satisfaction, ce qu'on fera nous pour réparer, on ne pourra jamais réparer par cette surabondance avec laquelle le Christ a réparé le péché d'Adam et Ève. Même si on donne tout ce qu'on a, ce ne sera jamais suffisant. Donc vouloir réparer et donner cette image de la réparation par l'argent, il y a un piège. Et de dire, je vais, heureusement Jésus, je suis là, parce qu'on est comme tous un but de nous-mêmes, heureusement Jésus, je suis là, je vais pouvoir réparer tous les péchés. Mais quelle prétention! Enfin moi je me dis à moi-même, hein, et souvent je me dis, mais quand je vois tous les dons, que tout nous vient de Dieu, et qu'on s'attribue bien des choses, je me dis, mais pour qui on se prend, quoi? Et Dieu reste Dieu. Et aujourd'hui, il y a un petit truc là-dedans qui fait que on va aider Dieu à être Dieu. Heureusement, enfin comme Dieu, on l'a mis dans les nuages, il est manchot, il n'est pas capable de grand-chose, et que l'homme, il est au centre, et tout, regardez la vie spirituelle, le peu que je vous ai dit, regardez comment on parle de la vie spirituelle, c'est épanouis-toi, développe ton moi, écoute ce que ton cœur te dit, fonctionne en fonction de ta sensibilité. Hein, et c'est tout l'inverse, moi, ce que je vous dis, hein, mais c'est aussi tout ce que dit Jésus aussi. Hein, quand il demande à Sainte Marguerite Marie, vous avez vu le tableau qu'il fait, la troisième apparition, hein, voilà, je suis méprisée par mes consacrés, et je ne reçois que des offenses et que des sacrilèges, ils n'ont rien, aucun sentiment d'amour pour moi. Donc, voilà, c'est lui qui le dit. Hein. Et nous, on voudrait à bon compte, je te mets là la somme, on n'en parle plus.
Ça peut être pour lutter contre l'avarice aussi.
Alors, on ne mettra pas. Alors, l'aumône est demandée, la situation, c'est dans le courant spirituel de la réparation.
Ah, oui.
Hein, faire un don pour les bienfaits, enfin donner aux pauvres, ça a toujours été dans l'Église et ça doit demeurer. Ceci dit, Jésus a toujours, tourné vers les pauvres. Hein. La réparation, c'est pas la même chose. Hein. C'est réparer pour l'offense qui a été faite. Jésus demande qu'on fasse réparation pour l'offense. Il ira même dans la troisième apparition demander qu'on instaure une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur pour réparer. Hein, c'est la fête du Sacré-Cœur. La fête du Sacré-Cœur, c'est une fête de réparation. La fête du Saint-Sacrement est une fête d'action de grâce pour le don de l'Eucharistie et du sang précieux du Christ. Alors, avec cette grande intro, je me lance. le mérite. Qu'est-ce que c'est que le mérite? Et alors, ce sont des propos, et comme il a cette grâce, le Père Guibert, c'est à lui que j'emprunte ces paroles, rendre simples les choses compliquées. Donc, j'ai une chance que que ce soit audible et digeste. Donc, selon le projet de Dieu, selon le projet de Dieu sur l'humanité, la très sainte Trinité veut que l'homme mérite la joie, et je vais aller doucement parce que si vous prenez des notes, veut que l'homme mérite la joie éternelle dans le paradis. Rien que ça, ça vous met de bonne humeur tous les matins. Méritez la joie éternelle.
Voilà.
Trinité veut que l'homme mérite la joie éternelle dans le paradis. Cette récompense de la vie éternelle, sont des mots d'aujourd'hui, c'est gratuit. Ah bah oui, tout à fait, on va le voir. Hein. Cette récompense de la vie éternelle sera donnée en rétribution des bonnes œuvres accomplies par chacun au cours de sa vie terrestre. Chacun est donc appelé par Dieu à mériter la récompense du ciel. Chacun. Je suis désolée, moi je dis souvent en boutade pour décomplexer, mais j'y crois, voilà. Sinon je ne serais pas rentrée religieuse. Et quand je me présenterai devant la porte, elle ne sera pas automatique. Il faut avoir le pass. Et voilà. Hein. Et c'est une miséricorde que Dieu nous fait en nous donnant le purgatoire. Il ne faut pas avoir peur du purgatoire. Même si, en tout cas, il faut tout faire pour ne pas y aller. Voilà, c'est ça la grandeur de la miséricorde. C'est une miséricorde, le purgatoire. Parce qu'en somme, Sainte Catherine de Gênes le dit, l'âme devant, éblouie par la lumière de sainteté qu'est Dieu, se jettera. Elle a la vérité de sa vie correspondra à sa conscience. Elle sait là ce qu'elle aura fait. Et comme elle sera dans cette vérité, nous on est dans le mensonge aujourd'hui. Chacun, on est plus ou moins dans le mensonge en fonction de notre amour propre. Non, je n'ai pas fait ça, ou c'était pas grand chose après tout. Hein. Et on a d'autres qui font beaucoup plus que nous, et on est bon chrétien. Et bien, là on sera dans la vérité, qu'est-ce qui se passe? Chouf, c'est de nous-mêmes qu'on ira se purifier. Tout. L'enfant qui veut embrasser sa maman, et qui sait que sa maman lui dit « il faut que tu sois propre, pour que je t'embrasse, il faut que tu sentes bon », le petit passe faire sa toilette avant, parce que c'est une parabole, mais je veux dire, c'est quand même ça. Alors pourquoi avoir peur du purgatoire, hein? Mais on a quand même cet objectif tous les jours, quand on est un gardonneur zélé, de mériter la récompense du ciel. Ce n'est pas automatique et tout le monde ne va pas au paradis.
Même après le purgatoire?
Ah si, l'âme est sainte au purgatoire. L'âme est sainte dans le purgatoire. Ce sont des âmes, les âmes du purgatoire sont des âmes sauvées. Hein. Par contre, quand je dis ça, c'est que l'enfer existe. Ça, c'est l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Ce n'est pas mon enseignement, c'est celui de l'Église. Et je suis désolée, l'enfer n'est pas vide. Parce que ça, c'est une hérésie aussi, même si c'est enseigné aujourd'hui. Mais c'est une hérésie. Comment? Oui. Mais aujourd'hui, vous avez des hommes d'Église qui le disent. Oui. Donc c'est toujours le catéchisme de l'Église catholique, voilà ce qu'il me dit. Et après, c'est vrai que c'est plus confort de se dire que... Mais à la fois, vous allez voir la dignité que Dieu nous donne, justement par le baptême, à nous faire collaborateurs et puis nous responsabiliser de notre vie de tous les jours. Je veux dire, tu peux pas vivre ta journée comme... faut s'en fiche, quoi. Enfin, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, enfin, rien que ça, on n'a pas de squelette, quoi. Enfin non, c'est, aujourd'hui c'est important. Je sais qu'avec mes sœurs, rien n'est petit. Même de ramasser une épingle par amour, rien n'est petit. C'est si on attend les grandes choses, nous qui sommes cloîtrés, moi je fais rien d'extraordinaire. Hein. Et du coup, s'il faut que j'attende la journée extraordinaire, les gens vivent de chaud en chaud, enfin, d'événement en événement. Et parce qu'il faut sentir la montée d'adrénaline. Mais soit on est à plaindre. Non, c'est la manière dont tu vas préparer ton petit déjeuner pour ton mari, ton enfant, ou même pour toi-même, parce que tu es toute seule et t'as personne qui t'intéresse. C'est important. La manière dont tu vas faire ta cuisine pour toi toute seule, c'est important. Pour ton mari, ça l'est aussi, mais pour toi toute seule, tu as plus de mérite. Quand on se dit, il y aura moins de regard, de retour, de satisfaction. Et voyez comment on peut vivre le mériter son ciel. C'est pas de se mettre un coup dans la chaussure. Hein. Alors, j'avance. Alors, retenons cet essentiel à propos du mérite. L'homme a réellement la possibilité de mériter, mais seulement par la grâce de Dieu. Et ça, c'est là le péché, justement, c'est qu'on croit qu'on peut mériter tout seul. Hein, c'est par grâce de Dieu. Voilà pour la définition de mérite. La satisfaction, maintenant. Donc, qu'est-ce que la satisfaction, on va voir, et comment elle s'articule avec l'idée de mérite. Nous avons dit qu'une action est méritoire en tant qu'elle appelle une récompense, donc celle du ciel. Et ceci avant même qu'il soit question de péché. La satisfaction, elle, survient en cas de faute. Elle, la satisfaction, elle, survient en cas de faute et elle désigne l'acte de compensation, de réparation suite à une offense. Si vous vous en rappelez la dernière fois avant qu'on parte en carême, c'était la deuxième partie du carême, je vous avais fait un petit truc sur la confession et je vous avais parlé de la satisfaction qui pour nous dans la confession vous dirait un petit « Je vous salue Marie » comme pénitence. Et le terme théologique, c'est la satisfaction. On répare. Et là, réparation suite à une offense. C'est pour ça qu'on donne cette forme, cette somme d'argent pour réparer, pour satisfaire à l'offense qui a été faite. En ce qui concerne la rédemption accomplie par le Christ, la foi affirme que le Rédempteur a satisfait. Le Rédempteur a satisfait. Ça veut dire qu'il en a fait assez. Il en a fait assez. C'est-à-dire qu'il a offert par sa passion, j'insiste, c'est par sa passion, un amour qui devait compenser. C'est-à-dire qu'il a offert par sa passion un amour qui devait compenser le manque d'amour du péché des hommes. Saint Thomas enseigne, Saint Thomas d'Aquin, le Christ, pour appuyer ce qui vient d'être dit, en souffrant par charité, donc par amour, et par obéissance, a offert à Dieu quelque chose, c'est très beau, de plus grand que ne l'exigeait la compensation de toutes les offenses du genre humain. Impressionnant, hein? Donc c'est pour ça que les saints vous disent, c'est là qu'il nous a le plus aimé. Ça se comprend, vous voyez. C'est pas du sentiment. C'est pas du sentiment. Hein. Pour articuler, alors je vais pas trop vite, ça va, pour ceux qui prennent des notes. Pour articuler les mots mérite et satisfaction dans l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur, on dira que le Christ a mérité sa propre résurrection et notre réconciliation par la satisfaction de sa passion, offerte dans l'obéissance et une parfaite charité. Alors que le mérite s'inscrit dans l'ordre de la création, il est antérieur au péché, la satisfaction, dont la spécificité est de réparer une offense, relève de la sphère de la rédemption, c'est deux termes différents. Satisfaction et mérite sont donc des notions infiniment liées, mais qui ne se recouvrent pas totalement. Et pourquoi ? On peut dire que la satisfaction est une sous-catégorie du mérite. S'il est vrai, et ça va éclairer, il est vrai que le mérite est intrinsèque à la satisfaction, c'est-à-dire qu'il est inhérent, la réciproque n'est pas vraie. Toute satisfaction n'est pas méritoire. Mais c'est pour ça la fameuse somme d'argent, je suis désolée d'insister, mais ce n'est pas obligatoirement méritoire. Mais tout acte méritoire n'est pas satisfactoire. La satisfaction spécifie le mérite. Alors, il ne manque rien, une autre partie, il ne manque rien à la satisfaction du Christ. Et ça, c'est un... quand on heureusement que je suis là pour réparer, voilà, en réparant toutes les offenses, enfin tout le péché, tout ce que Jésus nous dit à Sainte Marguerite Marie dans cette troisième apparition, il lui donne son cœur pour réparer. Il l'a réparé. Lorsque Saint Thomas commence ce passage de l'écriture de l'épître aux Colossiens, ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair. Hein? Alors qu'on est tous d'accord, des fois on entend, alors il n'aurait pas donc complètement, toutes ces souffrances n'auraient pas suffi, il faut que, moi aussi il faut que je souffre, c'est d'abord pour ça que je souffre. C'est faux. Ça c'est une hérésie. Et c'est pas ça que veut dire Saint Paul. Cette explication, il écarte d'emblée toute compréhension qui jugerait insuffisante la satisfaction accomplie par le Christ à travers ce verset. Ces paroles entendues superficiellement pourraient recevoir cette mauvaise compréhension que la passion du Christ ne serait pas suffisante pour la rédemption, c'est toujours saint Thomas que je cite, et que les souffrances des saints ont dû lui être ajoutées pour la compléter. Ce serait hérétique, dit saint Thomas, parce que le sang du Christ est suffisant à la rédemption, dit-il, même d'un grand nombre de monde. Donc, c'est du plus, ouais. C'est même pas du plus, mais voilà. Dieu n'a pas besoin de nous, sa passion a tout réparé. Alors, parce qu'on est tous des pécheurs, voilà, selon nos histoires plus ou moins cabossées, quand vous vous rendez compte de la paix que ça donne, hein, il a réparé tous les péchés qui ont été commis, qui se commettent et qui seront commis. Voilà.
Alors, je comprends plus.
Vous allez voir. Enfin, faut laisser dérouler le truc.
Ah oui, pardon.
Si, justement. Et il y a à réparer. La preuve, c'est sinon, il ne dirait pas Sainte Marguerite Marie. Marie, non. T'as vu ce qu'ils me font? Après, c'est pour. Il faut aller au rythme de la sœur. Alors, une satisfaction non seulement suffisante, mais surabondante. Non seulement le Christ a satisfait de manière suffisante pour restaurer l'alliance entre Dieu et les hommes qui avait été brisée par le péché d'Adam, mais sa satisfaction fut surabondante. La charité du Christ souffrant, dit saint Thomas, a surpassé la malice de ceux qui l'ont crucifié. C'est beau, hein? Aussi, la satisfaction offerte par le Christ dans sa passion a-t-elle été plus grande que l'offense que ses meurtriers ont commise en le tuant? Ça nous met quand même à vraie place, je trouve. C'est au point que la passion du Christ a été une satisfaction suffisante et même surabondante pour les péchés de ses meurtriers. Le Christ aurait tout à fait pu nous sauver autrement que par le Golgotha. Tout à fait. Une absolution collective, prononcée du haut du ciel, aurait été suffisante. Une seule goutte de sang aurait été efficace pour nous obtenir le salut. Car étant Dieu, voilà, c'est ça, c'est là. Car étant Dieu, un seul soupir d'amour du Verbe fait chair avec une valeur salutaire. C'est pas la quantité de souffrance. Notre Seigneur a voulu aller au-delà de la stricte justice dans l'ordre de l'amour. Dieu ne sait pas calculer, dit saint Bernard, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Donc, surabondance, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais oui. Le Christ a satisfait à notre place, mais pas sans nous. Un autre paragraphe. On avance dans le déroulé. Patience. Alors, deux petits mots. Enfin, voilà, c'est simple à comprendre. La satisfaction présente un paradoxe. Elle est à la fois exclusive et inclusive. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, qu'est-ce que c'est que la satisfaction inclusive ? La satisfaction exclusive. J'ai oublié de passer par là pour vous faire arriver au fait qu'on satisfait avec le Christ. On répare avec le Christ. L'homme a été capable de commettre le péché originel. Et alors moi, par le passé, j'avoue, je me disais, oh, quand même, hein, c'est dommage. Parce que c'était quand même pas mal, hein, le jardin d'Éden. Bah, au final, non. Quand on avance là-dedans, c'est la grâce d'avoir un sauveur. Hein. Et justement, d'avoir la béatitude. C'est en vue de ça, le salut. Hein, de pouvoir jouir, hein, d'être plein, rempli, hein, de Dieu. Mais comme cette faute avait une certaine dimension infinie, elle a quand même eu un retentissement sur tout le genre humain. Ce n'est pas juste les enfants que vont avoir Adam et Ève. Ce n'est pas juste la famille, non. L'être fini qu'est l'homme était incapable de réparer par lui-même ce qu'il avait brisé. Ah, c'est sur la rue. Mais maintenant, avec les sonneries de téléphone qui sont des fois originales.
Non, mais c'est le carnaval de Nantes.
Hein?
C'est le carnaval.
Ah, mon Dieu. Ça fait une...
Ah, c'est cette nuit?
Ah, ben, une occasion, tiens, de réparer pour les débordements. Alors, la nature humaine, écrit saint Thomas, ne pouvait être réparée ni par Adam, ni par aucun autre simple homme. Soit parce qu'aucun homme singulier n'avait prééminence sur toute la nature. Voilà. Soit parce qu'aucun simple homme ne peut être cause de la grâce. La grâce ne viendra jamais de nous. Voilà. Et comme il faut les deux, l'homme devait réparer, mais au final, seul Dieu le pouvait en se faisant homme. Le péché, c'est pour ça qu'il y a eu l'incarnation. Le péché commis contre Dieu reçoit une certaine infinité à cause de l'infinité de la majesté divine. Aussi fallait-il, pour une satisfaction équivalente, que l'action de celui qui offrait satisfaction ait une efficacité infinie, comme elle peut l'être en celui qui est Dieu et homme. Donc c'est vrai que quand aujourd'hui on touche à l'équilibre 100% homme et 100% Dieu dans la personne du Christ, c'est ça qu'on touche. Vous voyez ? Il n'a pas pu nous sauver. Hein ? Et c'est pas anodin qu'aujourd'hui, de plus en plus, Jésus-Christ est un homme. Un homme normal. Un peu de divinité quand même, quelques petits miracles, mais un homme. Vous voyez, la Sainte Vierge, une femme normale. Alors, elle n'est pas Dieu, mais c'est l'Immaculée Conception. Elle est pleine de Dieu. Je ne dis pas qu'il faille reprendre l'expression, mais nos aïeux l'appelaient la Divine Marie. Ça dit quand même quelque chose. Juste pour se donner... un petit cours de théologie, on va dire. Moi, je trouve que ça donne un petit cours de théologie quand on dit la Divine Marie. On ne s'adresse pas à une femme normale. Et vous voyez, derrière, c'est on prive le peuple de Dieu de grâce. Si c'est un homme qui n'a pas, en somme, qui n'est pas complètement rempli, enfin, qui n'est pas Dieu, comment il va pouvoir solutionner tous mes problèmes ? Qui n'en sont pas pour lui des problèmes. Pour moi, oui. Donc, hop, voilà. À qui déposer le fardeau ? Sur qui compter ? À qui faire confiance ? Le dernier gourou qui sort, la dernière spiritualité qui sort. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, ça marche bien. Hein. Ça marche bien.
À un certain moment, ça
viendra après. Voilà, ouais. Mais on se fait malheureusement avoir. Voilà. Tout est grâce, donc ça fait partie du chemin. Mais on a le devoir, je reprendrai la parole à fermité frère, on a le devoir de dire la vérité, de taire le mensonge, mais de dire la vérité. Après, ça ne nous appartient plus. La vérité, c'est avec un grand V, c'est une personne. Il sait, comme il est Dieu, faire la vérité. C'est pas à nous, vous voyez. Nous, on a à dire la vérité, mais on n'a pas à convaincre. C'est pas nous qui allons faire avancer dans le cœur de l'homme la vérité. C'est la vérité elle-même qui s'avancera dans le cœur des hommes, dans notre société. Donc, on a l'obligation de vivre en vérité face à notre Créateur. Sinon, la vérité ne se fera jamais. Ce n'est pas en faisant des discours sur les places que vous annoncerez Jésus-Christ. C'est en vous tenant devant la vérité, qui est Jésus-Christ. Donc, la satisfaction est donc dite exclusive, donc c'était simple à comprendre, en ce sens que seul le Fils de Dieu, fait homme, pouvait l'accomplir, et il l'a accompli à notre place, et sans nous. Alors maintenant, inclusive. Cette satisfaction exclusive en tant que telle, Dieu l'a pourtant voulu inclusive. Dieu ne veut que nous soyons, veut que nous ne soyons pas des réceptacles passifs des effets de sa rédemption, des mollassons, vous voyez. Il nous y a inclus, nous en rend participants, fait de nous d'authentiques collaborateurs de sa rédemption, au point de pouvoir mériter et satisfaire pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres. Jacques Maritain écrit « Il n'y a qu'une seule croix, celle de Jésus, à laquelle tous sont appelés à participer. » Donc, ma croix, ta croix, votre croix, c'est celle de Jésus qui passe par la maladie, l'absence de travail, le mari ci, la femme ça, les enfants ci. Voilà, mais c'est la croix de Jésus. Voilà. Qui nous fait satisfaire et qui nous fait mériter. C'est maintenant, accrochons-nous, la volonté de Dieu que nous produisions des miracles. Des miracles, ça c'est sûr. Allez, l'humour. C'est la volonté de Dieu que nous produisions des mérites. Et c'est en ça que c'est le miracle. Toujours dans son commentaire de saint Paul aux Colossiens, du chapitre 1, verset 24, donc là, ce que je viens de vous dire, là, sur la passion du Christ serait trop courte, hein, donc j'achève ce qui manque à la passion du Christ en ma chair. Saint Thomas prend soin de préciser que Dieu veut que nous produisions. Alors, les mots sont choquants aujourd'hui, si vous voulez, parce que comme on nous a tellement édulcoré le vocabulaire, produire des œuvres, nous sommes prédestinés à mériter. Prédestinés à mériter. Dieu donc a déterminé dans sa prédestination la quantité de mérite que doit acquérir l'Église entière, et parmi ces mérites sont les souffrances des saints. Ça, c'est saint Thomas qui dit. Il faut qu'on se remette dans l'ambiance, hein, parce qu'aujourd'hui, comme on est à des années-lumière de ce qu'est Dieu, on s'est fait un Dieu à notre image. Dieu, c'est pas tout. Dieu, c'est une hérésie, Jésus a découvert, il a grandi en sagesse et en taille, donc il a découvert, c'est comme ça qu'on peut expliquer ce verset, c'est une hérésie, qu'à fur et à mesure qu'il a grandi avec Saint Joseph et la Vierge Marie, il a pris conscience que il avait une de ses missions, c'était de sauver le genre humain et qu'il allait souffrir. Moi j'ai déjà lu ça dans des livres et j'entends ça. C'est une hérésie. Jésus, c'est Sainte Marguerite Marie qui le dit, mais la théologie Saint Thomas le dit aussi, dès l'incarnation, la croix s'est plantée dans son cœur, il savait, la connaissance de Dieu n'est pas la nôtre, et heureusement pour nous, c'est Dieu. Enfin, on ne peut pas imaginer Dieu avec une intelligence finie. Dieu a une intelligence infinie, donc obligatoirement, ça ne va pas rentrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on s'incline et on dit, il sait tout, Et je vous dis, c'est bonne nouvelle pour nous. Ou alors, ben non, je me fais un Dieu à mon image, et du coup, à ce que je suis capable de comprendre à travers mon expérience personnelle de la vie, et du coup, Dieu, il est à ma botte. Je me sers de Dieu pour mes projets, pour mes réussites. On entend, en disant ça, c'est pour vous expliquer, hein, je juge personne, parce que je pourrais, il y a quelques années de vie religieuse, donc il y a quelques années de purification derrière, de ceux qui vous parlent. Mais aujourd'hui, dans vos entourages, c'est assez impressionnant, dans les intentions qui sont confiées, qui vous sont confiées, regardez sur quoi ça se base, protection, réussite. La jeune fille que je rencontre, le meilleur mari, que j'ai la plus belle des maisons, voilà, c'est que que je réussisse, que ça marche, que je ne souffre pas, que je trouve le bonheur, alors c'est vrai que moi je suis pas rentrée, je suis rentrée dans la vie religieuse pour être heureuse, hein. Je suis pas rentrée dans la vie religieuse pour être malheureuse, mais je vous mentirais, alors je pense que en tout cas ça doit se voir, je suis profondément heureuse, mais vous dire que je ne souffre pas, c'est mentir. C'est mentir. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Le bonheur, dans la souffrance, vous trouvez votre joie. La souffrance est une école du bonheur. Même si je vous scandalise, je suis désolée, c'est la vérité. Alors, donc si on se remet dans cette ambiance de saint Thomas d'Aquin qui avait tout Dieu qui lui rentre dans la tête. Et du coup, il a la connaissance directe de Dieu. C'est ça, saint Thomas d'Aquin. Hein? Et donc, il peut écrire ça. Puis, en fait, compte, on est prédestiné à produire une certaine quantité de mérite. Parce qu'en fait, compte, notre vie, elle est déjà dans le cœur de Dieu. Hein? Pas qu'on soit... les gens tout de suite, ah ouais, mais alors on n'a plus de liberté. Mais c'est complètement. Enfin, d'abord, non, c'est faux, tu gardes toujours ta liberté. Parce que ce que tu vas faire de travers en voulant justement user de ta liberté à faire n'importe quoi, en somme, c'est déjà dans le cœur de Dieu. C'est pas une découverte pour Dieu que t'es pécheur. Comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est une miséricorde. Alors. Nous ne sommes plus guère habitués à entendre un tel discours. C'est bien dommage, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Père Guibert, mais je le signe. Et pour trois raisons, voilà ce qu'il dit. Et là, ça va nous rejoindre dans notre... Oh là, on va voir le premier, en tout cas. Tout d'abord, parce que saint Thomas, en rappelant cela, ne fait que s'inscrire dans l'enseignement du Christ, qui dit que c'est la volonté de Dieu que nous portions du fruit. Ça, c'est saint Jean, chapitre 15, versets 6 et 16. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. C'est moi qui vous ai choisi et vous établi pour que vous alliez porter du fruit. C'est l'Écriture qui le dit. Nous mesurons le fossé qu'il existe entre la vision protestante. Désolé, en proclamant la vision protestante et catholique en ce qui concerne l'homme dans le plan de Dieu. Les protestants, en proclamant leur fameux sola fide, seule la foi sauve, et pas les œuvres, font une lecture sélective et appauvrie de l'Écriture. Selon la foi catholique, et c'est la nôtre, les hommes sont certes sauvés par pure grâce, ça on l'a dit, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi, mais aussi par leurs œuvres que la grâce leur donne d'accomplir. Voyez, ça se tient. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Et dans vos vies, c'est bien en fonction de ce que vous allez faire que votre foi va grandir. Hein? C'est plus vous aurez, plus vous mériterez, hein? Plus votre foi va grandir. N'attendez pas d'avoir la foi pour mériter. Deuxième, Pour, deuxième raison pourquoi c'est dommage qu'on soit choqué de ce terme, redire que Dieu prédestine chaque membre de l'Église à produire une certaine quantité de mérite montre l'immense responsabilité qui repose sur les épaules de chacun dans l'édification de l'Église et la venue du royaume. Quand je néglige d'offrir telle action jugée insignifiante, cela est perdu pour la croissance de l'Église et du royaume. Dans la Cité de la Joie, Dominique Lapierre écrit « La générosité de mes amis de la Cité de la Joie m'a enseigné le véritable sens de cet admirable proverbe indien qui dit que « tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Et c'est ça, l'émonial, de récupérer, hein, de ramasser par les offices divins tout ce qui tombe à côté du cœur de Dieu, tous les cris de tous ces hommes qui ne savent pas que Dieu existe. Voilà. Hein, les intentions de la grande prière universelle qu'on a priée vendredi saint. Voilà. À l'inverse, lorsque j'offre les riens de mon quotidien, mon heure de présence, je participe à l'élévation du monde et de l'Église. Madeleine Delbrel, l'apôtre des banlieues communistes, disait « Quand nous attendons un train, un bus, qui n'arrive pas sur un quai où l'on a froid, en plus de cette intégration à la volonté de Dieu, nous devons, par notre peine, les donateurs de la grâce de Dieu. » Ça, c'est, ça passera par nous. Hein? On permet à la grâce de circuler. C'est en ça qu'on a de la responsabilité.
Est-ce qu'on peut offrir des souffrances a posteriori? Des trucs qu'on a souffert, qu'on n'a pas pensé à offrir?
Oui, ouais. Parce que tout est instant présent, enfin, c'est, tout est éternel.
C'est ce qui me semblait, mais je
voulais. Ouais. En somme, c'est ça qui est divin dans l'instant présent. En somme, l'éternité, ce sera l'instant éternel. C'est l'instant présent, mais éternel, intemporel. Hein. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de vivre instant présent, parce qu'on vit toujours en Dieu. Dès qu'on sort de l'instant présent, on n'est plus en Dieu. C'est pour ça que ça rejoint Don Chapman que je vous évoquais. C'est pas « j'ai conscience d'être avec Dieu qui fait que je suis avec Dieu ». Je suis dans l'instant présent, là, je suis là avec vous. Et je ne suis pas à « après, qu'est-ce qui va se passer ?» Et là, je suis déjà plus avec Dieu. Si je suis déjà à « qu'est-ce que je vais faire après la formation ?» Je suis plus avec Dieu. Donc, je suis là, donc je suis avec Dieu. Donc, je suis dans l'éternité. Donc, je peux réparer mon passé en méritant, en l'offrant à nouveau. Voilà. Je dis bien, en offrant... Pas en se culpabilisant de ce que j'ai fait. Ça, c'est du péché. C'est diabolique. Hein? C'est pour ça que je disais, enfin, la petite Thérèse, ce qu'on parlait ce matin avec nos sœurs en cours, et je trouvais ça admirable de la part de la petite Thérèse. Donc, elle avait un parloir avec ses sœurs et puis sa famille. Et puis, vous savez, quand on est quatre au parloir, une demi-heure de parloir, nous, c'est un peu plus, mais à l'époque, c'était une demi-heure. À la station, c'était pareil. Bon, enfin, fallait que ce soit chacun avec sa son temps limité, hein. Et évidemment, la Sainte Thérèse, elle laissait faire ses sœurs. Et puis, quand elle quittait le parloir, elle disait à Jésus, répare pour ce que je n'ai pas, que j'ai peut-être mal dit, parce que j'ai pas eu le temps de bien dire les choses. Et puis, pour ce qui n'a pas été bien compris, mal dit, et puis ce que j'ai pas pu dire, pour soulager la personne. C'est beau. Un acte de foi. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle retrouvait donc sa Léonie, sa sœur, au parloir suivant, et la conversation reprenait là où on l'avait laissée. Voilà. La délicatesse du bon Dieu. Donc, très concret. Alors, est-ce que je fais le troisième point? J'ai dépassé l'heure. Je regarde ce que ça met. Non, ouais, j'ose. Est-ce que je peux faire 5 minutes de plus? Ça gêne personne? Ouais. Pour après qu'on s'en sorte, parce que pour reprendre, en plus on ne se verra pas au mois de mai, enfin du moins si vous participez, aux deux festivités, aux deux événementiels, pour prendre les termes d'aujourd'hui, du mois de mai, la prise de la profession temporaire de Sœur Françoise et le jubilé de la Sœur Marie-Marguerite, et le 16 mai, eh bien, on se voit au mois de juin. Alors, Saint Thomas précise, pourquoi la troisième raison, que parmi les mérites, les souffrances des saints sont revêtues d'une grande puissance sur le cœur de Dieu en vue de la transformation du monde. C'est pour ça que je vous baratine à chaque fois de devenir saint. Ce que vous allez vivre, boire, un saint qui boit un verre d'eau, ça a une valeur immense sur le cœur de Dieu. Quelqu'un qui boit un verre d'eau et qui n'est pas saint, qui mène une vie de patachon, ça n'a aucune valeur. Vous comprenez ? Il y a là matière à réhabiliter la spiritualité victimale. Non, les âmes victimes ne sont pas des malades, elles sont habitées par une très haute charité, hein, Sainte Marguerite Marie. Hein. Non, elles ne sont pas en retard, elles auraient plutôt un train d'avance. Elles exercent en effet l'apostolat le plus fécond qui soit en ayant l'humilité de mettre leurs pas dans ceux du Rédempteur. À propos des âmes victimes, Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, amoureux de mon amour, affamé de cette nourriture que sont les âmes, cela court vers la table de la très sainte croix et veulent, par de nombreuses souffrances et patiences, servir leur prochain, conserver et acquérir les vertus en portant dans leur corps les stigmates du Christ. Alors attention, les stigmates du Christ, ça peut être les stigmates du Christ, les plaies glorieuses du Christ, hein, mais ça peut être une maladie. Ça peut être une faiblesse, ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui est dans ma chair, cette écharde que saint Paul parle, hein, et on a tous, en somme, un stigmate, tous, hein, qui va être une porte entre, le terme exact, c'est entre ta main, dit Thomas, dit Jésus à Thomas, entre ta main dans ma plaie. C'est une plaie, un stigmate. Notre écharde est une plaie, une porte ouverte pour que le Christ rentre. Donc c'est ça une croix. C'est pas le truc pour lequel je vais prier, faire des neuvaines pour me débarrasser, pour enfin moins souffrir. Je dis pas qu'il faille aimer la souffrance. Ça, il y a un problème d'équilibre psychologique voire psychiatrique. Hein. J'aime Jésus qui permet mon écharpe, mon stigmate. D'accord ? Ces âmes jetées dans la fournaise de ma charité, parce que c'est l'amour qui nous fait aimer notre écharpe, hein, parce que c'est abject, hein, sans que rien d'elle soit hors de moi, tout embrasé en moi, nul ne peut les prendre ni les arracher à ma grâce, parce qu'elles sont devenues une seule chose avec moi et moi en elle. Voilà les saints. Hein. Voilà l'enjeu de le laisser vivre en moi. Hein. Quand je vais poser, mais alors on détaillera après justement comment on va pouvoir réparer à partir de on va pouvoir continuer d'avancer dans ce troisième point des âmes victimes, parce que c'est ça à quoi je vais arriver pour montrer le courant de réparation, parce qu'on est tous appelés à cette vie victimale, pas au même, je ne parle même pas une question de degré de vie victimale si on se compare avec Sainte Marguerite Marie, je pense que là il y a un piège à se comparer, et on ne peut pas se comparer dans la vie des saints, il n'y a pas un grand saint et un petit saint, il y a la sainteté de Dieu, point, c'est tout. Par contre, il y a une, on va dire, un déploiement dans la vie, dans nos vies, qui sont différentes. Il y a des, il faut le reconnaître, il y a des vies des uns et des autres qui sont faites de beaucoup plus de souffrances, plus de choses abjectes que d'autres. C'est clair. Dans vos vies, il y a des. Souvent dit, moi, ma sœur, elle a marché tout droit, il n'y a rien eu, rien n'était travers. Puis alors, moi, ça a toujours été comme ça. Vous voyez, on est bien différents les uns des autres. Il n'est pas demandé la même chose. Par contre, il est demandé d'être sain. Voilà. Et les moyens seront différents. Mais c'est toujours la même vie qui nous relie, la même histoire de mérite et de joie éternelle qui est visée. Voilà, c'est tout. On sera tous remplis de l'amour de Dieu. Tous. Si on joue le... Justement, si on prend au sérieux, on va dire, notre œuvre de présence. Là, c'est ça, hein, c'est ça l'œuvre de présence. Hein. Voilà, je m'arrête là. On continuera la prochaine fois. Il y a peut-être une question? Ouais.
Oui, moi je me demandais les indulgences.
Ouais.
Quoi,
alors? Eh ben c'est ça. C'est, les indulgences, c'est le trésor, c'est la banque de mérite de tous les saints et surtout des mérites de Jésus-Christ. Hein. Donc si on plonge dans les mérites pour indulgence, c'est se faire indulgencer, donc enlever la peine temporelle qui est liée au péché. Il y a, vous ferez, c'est en somme les années purgatoires. Hein. Mais vous prenez dans les mérites. C'est pour ça qu'il dit bien que ça s'ajoute, les mérites des saints s'ajoutent aux mérites de Jésus-Christ, au sang et à la passion. Voilà. Donc, bah, est-ce que vous voulez, comment dirais-je, placer des mérites dans la banque à Jésus-Christ? C'est la pure, c'est la grande charité, ça. C'est une charité de donner la soupe à un pauvre, mais on oublie cette grande charité, voilà, de mériter. C'est comme elle est grande, l'Église catholique. Là, notre mère, l'Église, hein, quand à la mesure de tout ce qui vient être partagé. Hein, vous ne trouvez pas? C'est extraordinaire, quelque part. Hein. Comment se damner? Je me dis, comment c'est possible? Ouais. Quel mystère, ouais, voilà. Et pourtant, voilà. C'est de notre faute. Je suis désolée, c'est de notre faute. Nous n'annonçons pas, nous ne vivons pas à ce niveau-là. Ayez une exigence, il faut une exigence pour réclamer ce discours.